Septième enregistrement. Deuxième partie du chapitre 3. Chapitre intitulé « Afin que personne ne puisse plus acheter ni vendre ». Relecture du dernier paragraphe de la première partie afin de faire le lien. En même temps, deux autres éléments de la prophétie de Jean doivent attirer notre attention. L'un d'entre eux est que les gouvernements dicteront la conduite à tenir à tous les citoyens de la planète, exerçant leur contrôle sur des choses aussi élémentaires que les achats et les ventes. Le second est que les gouvernements légiféreront sur les affaires religieuses. De la même manière que pour la crise économique, ces deux facteurs se sont immiscés dans notre vie petit à petit. Des pouvoirs capables de les mettre à exécution sont déjà en place, sous la forme des banques électroniques et un droit religieux fortement politisé. En 1946, l'armée américaine a commencé à se servir de l'un des premiers ordinateurs au monde, surnommé ENIAC, E-N-I-A-C. C'était un véritable monstre. Ses 18 000 tubes à vide consommaient 150 kilowatts et il occupait 167 mètres carrés d'espace au sol. Pourtant, il était capable d'effectuer des calculs complexes en une fraction de seconde. 10 ans plus tard, le transistor révolutionna l'électronique. 10 ans encore, et les ingénieurs conçurent le micro-circuit, réduisant ainsi ce qui occupait autrefois plusieurs pièces à la taille d'une puce, grande comme un ongle. De nos jours, les ordinateurs de la puissance d'ENIAC tiennent dans la poche. En parallèle avec le développement du traitement des données, s'est développé un nouveau mode de transaction commerciale grâce auquel des caisses enregistreuses dotées de lecteurs laser reconnaissent votre achat, enregistrent son prix et impriment un ticket de caisse qui indique exactement ce que vous avez acheté. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les données que l'ordinateur choisit de conserver en mémoire? Si vous utilisez une carte de crédit, le système vous connaît si bien que dans de nombreux magasins, des terminaux peuvent immédiatement savoir quel est votre crédit. À ce stade, nous ne sommes pas loin d'une société sans monnaie physique dans laquelle nous ne manipulerons pas de billets ou de pièces et notre capacité nette de paiement ne serait qu'une série de données informatiques enregistrées sur les disques durs d'une banque. Si ceci arrivait, la seule source de paiement qui serait en notre possession serait une carte de crédit codée sans laquelle nous nous trouverions dans l'impossibilité d'effectuer un achat, quel qu'il soit, même pour un produit de première nécessité. En gros, un système qui rappelle ce qui est évoqué dans Apocalypse est déjà en place, mais nous l'avons accueilli dans notre vie de tous les jours, séduit par son côté pratique, sans même penser que ce système qui nous facilite les achats pourrait tout aussi bien les empêcher. Tout est déjà en place. Pendant ce temps, les événements dans le domaine religieux ont évolué rapidement, nous mettant en une vingtaine d'années dans une position où nous n'aurions jamais pensé nous trouver. Si on revient en arrière, le processus semble avoir démarré avec un jeune et séduisant homme politique du nom de John Kennedy. En 1960, lorsque John Kennedy a remporté l'élection à la candidature officielle de son parti, il a rencontré un obstacle que personne jusqu'alors n'avait pu surmonter. Il était catholique et jusque-là, dans une Amérique majoritairement protestante, aucun catholique n'avait pu accéder à la présidence. Mais Kennedy pensait que ce pays était prêt à accepter un changement de mentalité dans le domaine religieux. Une nouvelle ère de tolérance pointait à l'horizon et avec elle une lueur d'espoir que le sentiment anti-catholique pouvait disparaître. Il se plongea dans la campagne avec brio et affronta le problème de l'appartenance religieuse de front. L'événement phare de ce combat eut lieu à Houston, au Texas, lorsque Kennedy prit la parole devant une association de dirigeants protestants et qu'il défendit la cause de la tolérance avec tant d'ardeur que la question de l'appartenance religieuse s'évanouit en une seule soirée. D'un seul coup, plus personne n'osa exprimer des sentiments anticatholiques. Kennedy remporta l'élection et des millions d'Américains qui n'avaient même jamais vu l'intérieur d'une église catholique se retrouvèrent en train de suivre, à la messe, grâce à la télévision, un jeune et séduisant président dont la famille attirait l'attention des médias de façon presque magique. On avait commencé à briser la carapace. Il était temps alors qu'entre une autre personne sur la scène mondiale, en la personne d'un pape, tout en rondeur, jovial et aimé de tous, du nom de Jean XXIII. Lorsqu'il fut élu pape en 1958, aucun signe ne montrait que le cardinal Angelo Roncalli serait autre chose qu'un pontife intérimaire remplissant sans problème sa fonction, tandis que le collège des cardinaux rechercherait un pape plus jeune et en fonction de manière plus définitive. Il avait 77 ans, on ne s'attendait pas à ce qu'il vive encore longtemps, et sa vie tout entière s'était déroulée si benoîtement que personne ne se doutait du feu d'artifice d'idées qui explosait secrètement dans sa tête. Et cependant, sa mandature papale révolutionna le catholicisme de fond en comble et catapulta sa fonction au rang de rôle universellement reconnu sur la scène mondiale. Peu après avoir été intronisé, il réunit le premier concile œcuménique depuis une centaine d'années. Il tendait officiellement la main aux non-catholiques et rencontra les chefs religieux des autres grandes obédiences. Ses recommandations lors de la crise cubaine engendrèrent la reconnaissance même de la part du monde soviétique et sa grande encyclique « Pacem in Terris », « Paix sur la terre » reçut un accueil favorable dans le monde entier. À sa mort, il était devenu l'un des hommes les plus aimés sur la terre. Tout de suite après le pontificat de Jean XXIII arriva un nouveau pape qui choisit le nom de Paul VI. Grand voyageur international, même avant d'accéder à cette fonction, le pape Paul entreprit une série de voyages sans précédent dans l'histoire. Il se rendit au Moyen-Orient, en Inde. Peu après, il visita l'Asie, puis vint à New York pour faire une allocution aux Nations Unies. Ensuite, il se rendit au Portugal, en Turquie, en Colombie, en Suisse, en Afrique du Sud, en Iran, au Pakistan et dans le Pacifique. C'est sans surprise qu'on lui donna le surnom de pape pèlerin. Les insignes jaunes et blancs de la papauté devinrent familiers dans les aéroports, les stades et les églises du monde entier. L'œcuménisme avait commencé à bien trouver sa place et le monde commençait à se sentir interpellé par ces hommes en blanc si doux, dont les bénédictions tenaient les foules en extase, ces hommes qu'on appelait vicaires du Christ et qui prônaient la fraternité entre les hommes et la paix dans le monde. Par la suite, deux autres papes trouvèrent la mort à quelques semaines d'intervalle, fait divers qui braqua de nouveau les projecteurs sur la papauté. Un nouveau pape fut choisi, un Polonais dynamique et charismatique, qui prit le nom de Jean-Paul II. Le choix des noms n'est pas anodin. Il allierait le charme de Jean XXIII à l'esprit voyageur de Paul VI. La papauté allait prendre son essor vers la sphère des fonctions dirigeantes mondiales. Les USA allaient même envoyer un ambassadeur au Vatican. Tout ceci se passa en à peine 20 ans. Pendant ce temps, un autre phénomène religieux eut lieu. Il balaya l'Amérique tout entière avec une telle force que sa puissance eut un impact mesurable sur les élections présidentielles elles-mêmes. Il s'agit de la montée du nouveau droit religieux. Pour des millions de personnes, il semblait apporter la solution aux problèmes du pays. Lorsque l'on considère l'Amérique de nos jours, un certain nombre de problèmes sérieux apparaissent. Déclin général dans le domaine social, manque de respect pour l'ordre établi, changement de moralité avec pour conséquence toutes ces maladies sexuellement transmissibles qui menacent même les plus jeunes et les innocents. Par-dessus tous ces sinistres dangers d'ordre général, la menace nucléaire, une économie mondiale vacillante et des actes de terrorisme. Il est évident que quelque chose va très mal. En même temps, une autre évidence apparaît. Si les gens vivaient d'après les principes bibliques fondamentaux, la plupart de ces problèmes seraient en partie solutionnés. Beaucoup disparaîtraient du jour au lendemain. Il n'est pas surprenant qu'un nombre de plus en plus grand de gens en conclut que la solution aux problèmes mondiaux doit être d'ordre religieux. À partir de ce concept, une nouvelle force politico-religieuse a vu le jour, bien déterminée à restaurer les principes moraux dans la vie américaine. C'est ce qu'on appelle le nouveau droit religieux, et il a une influence très importante sur les élections présidentielles. Ses projets pour l'avenir sont, paraît-il, ambitieux. Parmi les adventistes perspicaces, tout ceci fait naître des inquiétudes et pas des moindres. Parce que s'il y a bien quelque chose que la prophétie annonce, c'est que l'alliance entre les politiques et le religieux donne un mélange explosif. Alors, arrêtons-nous et analysons ce qui se passe. Le droit religieux présente toute une série d'idées qui, en elles-mêmes, sont difficilement discutables. Réfléchissez-y et tâchez de découvrir quel objectif ne correspond pas à ce que vous pensez. Cette année, plus de 86 millions de délits en tout genre seront commis. Près de 28% de foyers seront touchés par la criminalité. À une époque, le Federal Communication Act de 1934 interdisait l'usage d'un langage incorrect sur les ondes, et il fallait aller au théâtre pour entendre des propos vulgaires ou regarder un spectacle de moralité douteuse. Maintenant, ceux-ci peuvent être vus et entendus à la télévision, et nos enfants peuvent être entraînés dans des spectacles de bas étage sans même avoir besoin de sortir de la maison. Y a-t-il un seul article du droit religieux manifestement inacceptable? Même sans tenir compte des conseils de la prophétie, on pourrait admettre pratiquement chacun d'entre eux comme solution nécessaire aux problèmes qui nous menacent tous. Et ceci illustre un point bien spécifique. À la fin des temps, un grand nombre des plus graves dangers pour nous pourront ne pas nous apparaître comme de véritables défis aux atteintes à la liberté, mais simplement comme de justes tentatives de faire face aux problèmes de tous les jours. Sans l'éclairage de la prophétie, il pourrait devenir difficile à discerner. Je vais vous en donner un exemple simple. Ces dernières années, l'inflation a suivi un cycle facilement prévisible et reconnaissable. En 1966, elle a commencé à augmenter, avec un maximum atteint vers 1971 à environ 6%. Puis elle a diminué et a repris sa progression encore plus forte en 1975, s'envolant cette fois à 10%. Une inflation à deux chiffres représentant une chose toute nouvelle pour les Américains. La vague a repris vers 1980, atteignant 14%. De nos jours, le cycle s'est assez souvent répété pour que l'on puisse prévoir sa reprise sur un graphique, et on s'aperçoit que chaque nouvelle vague atteint un maximum plus fort à chaque fois, ce qui nous donne à réfléchir sur ce qui va se passer dans l'avenir. Certains analystes en ont conclu que nous allons subir une inflation encore plus destructrice que ce que nous avons constaté jusqu'à présent. Ils ont peut-être raison ou peut-être tort, mais nous avons suffisamment d'éléments pour avoir des craintes justifiées. La dette fédérale massive, une possible banqueroute du système bancaire et même une possible rupture de l'approvisionnement en pétrole pour la planète. Si le pire des cas se présente et que l'inflation atteint des sommets insupportables, tôt ou tard, les gouvernements seront contraints d'intervenir et prendre des mesures d'urgence telles que le contrôle des salaires et des prix. Mais même une intervention à ce niveau pourrait ne pas suffire pour endiguer les pics inflationnaires si la monnaie est en libre circulation, car les forces du marché ont une certaine manière de participer à la montée de l'inflation en dépit des efforts des gouvernements. Pour pouvoir réellement prendre en main la situation pendant cette crise, il faudrait exercer le contrôle sur presque tous les domaines économiques. Et avec la technologie d'aujourd'hui, il existe une manière terriblement tentante de le faire. Retirer les liquidités de la circulation et exiger de tous de n'utiliser que les moyens de paiement virtuels, aussi bien pour acheter des marchandises par transfert de fonds que pour effectuer des transactions quelles qu'elles soient, et utiliser le système informatique fédéral pour vérifier que les prix ne sont pas trop élevés. En réalité, ceci est vraiment simple à faire. L'enregistrement des données personnelles est pratiquement terminé en Amérique grâce au système pour la sécurité des personnes, doublé par un système de cartes de crédit incroyablement complexe qui arrive à indiquer où les gens se trouvent, combien ils dépensent, s'ils paient leurs factures, et tout ceci à l'échelle planétaire. Récemment, je me trouvais à Leningrad dans une boutique de cadeaux. Ne voulant pas dépenser mon argent liquide, j'ai tendu ma carte Mastercard au caissier. Il a accepté sans sourciller. Walter Winston, ancien directeur de Citicorp, l'a récemment formulé en ces termes. Que cela nous plaise ou non, l'humanité dispose maintenant, en ce qui concerne les communications et les transactions commerciales, d'un marché virtuel planétaire complètement intégré, capable de déplacer des sommes d'argent ou des idées d'un bout à l'autre du globe en quelques minutes à peine. Cité par Michael A. Snyder dans Plain Truth, La vérité pure et simple, février-mars 1985, page 21. Ainsi donc, le passage à la monnaie électronique ne représenterait pas un gros problème. Le système nécessaire à sa mise en place existe déjà. Imaginons alors les USA, en temps de crise, devant la nécessité d'un contrôle de l'inflation par le biais de celui des dépenses et des achats. La solution apparaîtrait aussi clairement qu'un lever de soleil en plein été. Retirer les liquidités du marché et imposer à tous d'utiliser les moyens de paiement virtuels par carte codée, grâce auxquels les achats pourraient être régulés pour se conformer aux exigences fédérales sur les prix. Notez bien ici quelque chose d'intéressant. Chaque étape de ce processus est parfaitement logique. Inflation, nécessité d'une réponse gouvernementale. Système disponible déjà utilisé et accepté par les Américains. Un sacrifice personnel relativement peu exigeant pour le bénéfice du sauvetage de l'économie nationale. Chacune des étapes semble logiquement engendrer la suivante. Non pas comme une atteinte à la liberté des personnes, mais comme un effort louable et honnête de la part du gouvernement pour préserver une vie correcte à ses citoyens. Ce processus est même si logique que pour la plupart des gens, il s'imposerait comme une nécessité pure et simple. Seul un étudiant attentif de la prophétie pourra y distinguer, sous l'écran de fumée de la politique et des raisonnements, sous le masque des informations des journaux du soir, et des élucubrations savantes des éditorialistes, la réalisation secrète de la prophétie des temps anciens. Voilà ce qu'elle dit. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le chiffre de son nom. Imaginons maintenant cette sorte de puissance gouvernementale s'exerçant en période de crise et des gens convaincus, pour la plupart, que le seul espoir pour sauver la nation est qu'elle revienne à Dieu. Imaginons encore que ceci se passe au moment où le paiement électronique a rendu caduques les liquidités et où il faut s'inscrire pour pouvoir disposer d'une carte de crédit, seul moyen de paiement restant. Mettons tout ceci ensemble. Et nous voici en présence d'un scénario adventiste classique de la fin des temps, servi tout chaud sur un magnifique plateau, doublé d'un système de communication disponible en chaque point du globe. Et voilà la mise en scène et le décor parfait pour les derniers événements de l'histoire. Cela nous donne peut-être un aperçu de ce qu'Ellen White a vu lorsqu'elle a averti qu'un temps viendrait où les gens déposeraient leur argent sur les marches des églises en priant pour qu'il puisse servir à quelque chose, s'apercevant ensuite qu'il n'a plus aucune valeur. Peut-être y a-t-il là aussi une explication de ce qu'elle voulait dire en affirmant que chaque dollar donné pour la cause de Dieu maintenant en vaudrait 10 plus tard. Peut-être enfin pouvons-nous un peu mieux comprendre le caractère urgent qui lui a fait rédiger ces paroles angoissées. Ellen White, lettre 201-1999. Les mauvais anges sont constamment à l'œuvre, concevant leur plan d'attaque. Je vous en supplie, mes frères, priez, priez, comme vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent. Nous ne sommes pas prêts pour le retour du Seigneur. Et ceci nous conduit à la grande question qui se pose actuellement aux adventistes. Sommes-nous prêts? Tant de choses se sont passées, et si rapidement. Une situation militaire mondiale qu'on ne peut que qualifier de critique. Des armements en tout genre dans l'espace. Des changements majeurs au niveau du monde religieux. L'existence d'un système qui permettrait d'imposer un interdit économique à ceux qui ne possèdent pas la marque de la bête. Tout concorde. Tout coïncide entre la prophétie et ce qui se passe aujourd'hui. Deux clés qui ouvrent la même porte, tout fait penser à ce qui est annoncé juste avant le retour de Jésus. Tout coïncide, sauf une chose. Un point manque sur le graphisme, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Cette condition finale est absolument nécessaire avant le retour de Jésus et n'est pas encore vérifiée. Et lorsqu'elle le sera, tous les éléments du décor seront en place. Alors il reviendra et la guerre sera finie et nous pourrons nous rendre chez nous. Et c'est là que réside l'ironie. L'histoire est prête, les éléments sont tous en place. Le ciel est prêt, attendant avec impatience de pouvoir déverser la puissance du Saint-Esprit. Même les non-croyants sont prêts, si impatients qu'ils finissent par se tourner vers des fictions comme Star Wars ou E.T. pour avoir enfin une idée de ce qui peut se passer ailleurs. Mais le peuple de Dieu doit être prêt aussi. Et ceci fait surgir la meilleure des nouvelles. Tout ce dont il a besoin pour l'être peut se réaliser en moins de 3 ans. Nous savons ceci parce que cela s'est déjà produit une fois dans l'histoire des adventistes. Nous étions pratiquement prêts pour le retour de Christ. Toute l'histoire a commencé en 1856.